Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Ce que vous découvrez à l'instant sur nos ondes ne doit pas vous effrayer ni même vous intimider. Certes, il s'agit d'une expérience que nous avons vécue les 11 et 12 mai à Coutances, dans le nord-ouest de la France. Le saxophoniste Raphaël Imbert avait alors choisi de rapprocher la musique africaine-américaine jazz et la musique classique européenne, en l'occurrence John Coltrane et Jean-Sébastien Bach. Cette fusion était-elle naturelle, pertinente, légitime ? Nous sommes allés poser la question à l'intéressé lui-même à l'issue de sa prestation à la cathédrale de Coutances dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers.
Alors c'est d'abord très factuel en fait, comme rencontre et comme association. En fait c'est né de la rencontre que j'ai faite avec André Rossi, qui est l'organiste du projet, qui, avec qui on a joué donc à Coutances, sur un orgue à ses côtés et dans une cathédrale qui l'est non moins, qui est vraiment un édifice extraordinaire. Et en fait on s'est rencontré au Conservatoire de Marseille, moi j'étais jeune professeur remplaçant, lui professeur titulaire déjà bien en place, moi de jazz et lui d'improvisation baroque. Alors que font deux improvisateurs quand ils se rencontrent ? Ils improvisent. Et il m'avait sorti un choral de Luther, avec lequel on a ouvert les concerts d'ailleurs à Coutances. D'ailleurs c'est un petit peu particulier parce que les gens, quand on joue dans un festival de jazz ce programme-là, ce qui n'a pas été le cas pendant les débuts du projet, très peu de festivals de jazz ont programmé le Bach Coltrane. On a fait surtout des festivals d'orgue, des festivals classiques, des festivals généralistes. Mais quand on a un public qui est vraiment plus jazz, il y a une certaine circonspection, on va dire, quand on joue un choral de Luther, joué un peu en free avec de l'orgue d'église, avec tout ce que ça représente comme charge émotionnel, mais parfois de mauvais souvenirs de la part des gens qui sont dans le public de l'époque de leur catéchisme, ce genre de choses. Et là, on leur balance la totale, au moins c'est fait. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait quand on s'est rencontré avec André. On s'est retrouvé dans la salle d'orgue, moi avec mon saxophone, lui avec son énorme instrument de la salle d'orgue du Conservatoire de Marseille. Et il me dit, écoute, moi j'aime bien partir de quelque chose de simple, regarde cette mélodie qui est un hymne de Martin Luther. Donc Martin Luther, c'est le réformateur, donc l'inventeur de la réforme, la grande révolution religieuse d'après la Renaissance, mais c'est aussi un grand compositeur d'hymnes liturgiques. Et en faisant ça, d'ailleurs, il a opéré une deuxième révolution, qui est une révolution musicale, puisqu'il a démocratisé le chant grégorien. Les chants liturgiques de Luther sont très grégoriens, c'est pas fondamentalement nouveau mélodiquement, mais par contre il dit aux fidèles, vous pouvez le chanter, ce qui était déjà une grande révolution. Et d'ailleurs, vous voyez tout de suite où je veux en venir, puisque c'est le début de la démocratisation musicale, celle qu'on voit à l'œuvre dans le protestantisme en général, et particulièrement le méthodisme, le baptisme, le pentecôtisme américain et afro-américain. Donc en fait, déjà le lien y était, mais en plus, comme c'est grégorien, c'est modal, dès que j'ai pris le saxophone et que j'ai joué la mélodie, j'ai dit « mais attends, ça ressemble à du Coltrane, c'est du Coltrane ». Et André m'a regardé, il n'avait jamais fait ce rapprochement-là, il me dit « bah regarde ce que ça donne dans une cantate de Bach, la même mélodie ». Et là, tout de suite, on s'est dit « il y a un truc ». On a d'abord joué, on a fait différentes expériences, et ça fait maintenant quasiment 15 ans que ça dure, et 10 ans que l'album est sorti, et qu'on continue à le rééditer, à le vendre, à jouer le truc. Enfin, c'est une très très belle aventure.
Pour autant, on ne pense pas immédiatement à la musique baroque européenne du XVIIe et XVIIIe siècle, quand on parle de musique noire. Quel lien faites-vous entre le jazz et Jean-Sébastien Bach ?
Même avant de faire le lien entre... Parce que Jean-Sébastien Bach est le premier jazzman. On va établir ce fait comme une vérité absolue. Si c'est pas le cas, on arrête tout de suite l'émission, Joe, et on passe à autre chose. Non mais, voilà, Bach, ça swing, c'est un improvisateur, c'est le premier grand jazzman de l'histoire. Mais même au-delà, j'irai plus loin dans l'idée de créolisation, ça va vous retrouver toutes les messes jésuites du XVIIe au Brésil, elles sont remplies d'influences créoles, africaines, espagnoles. En fait, partout sur le territoire de la diaspora et de l'Atlantique noire, vous retrouvez ces mélanges-là. C'est-à-dire que ces musiques se sont créées avec cette rencontre-là. Alors évidemment, vous et moi, on est très focalisés sur l'aspect noir, africain, afro-américain ou créole de ces choses-là. Mais si créolité il y a et créolisation, il y a aussi d'influence européenne, notamment harmonique, et qui est très clairement établie sur la base de la musique liturgique européenne, anglaise, allemande particulièrement, et aussi de la musique baroque telle qu'elle était pratiquée par toute la bonne société créole. Alors je parle de créole au sens très large du terme, c'est-à-dire on va partir du sud du Brésil et remonter quasiment à Québec et se rendre compte qu'en fait il y a une base là de musique socialement assez élevée, mais qui est une musique partagée par tous et qui est surtout une musique d'improvisation. Donc finalement le mélange il est là, il est déjà là et déjà présent.
Diriez-vous que le seul écho tangible entre Bach et Coltrane relève de la spiritualité ?
Non. Il relève aussi de l'improvisation. C'est-à-dire que les deux sont importants, par égal, selon moi, et ils sont très liés. C'est-à-dire que c'est en étudiant ce rapport entre Bach et Coltrane qu'on comprend que l'improvisation est un geste spirituel, pas religieux, hein, c'est différent. Il y a une sorte de magie, de mystique de l'improvisation chez les jazzman et toutes les musiques afro-américaines qu'on retrouve dans la musique baroque, dans la musique classique. Comme la musique classique, on improvisait jusqu'à il y a 100 ans, c'était pas si vieux que ça. Donc on a volontairement voulu faire disparaître l'improvisation. L'histoire de la disparition de l'improvisation dans le monde occidental est passionnante et dramatique. C'est vraiment l'aspect populaire, oral, qu'on a voulu faire disparaître au profit de la toute-puissance du compositeur, de l'administrateur et du chef d'orchestre. Tant mieux pour Karajan et Beethoven et Pierre Boulez, tant pis pour la diversité et la complémentarité des musiques. Mais il y a eu une résistance très forte, ça s'appelle le jazz. Et moi, je vois vraiment le jazz comme un acte de résistance vis-à-vis de cette pensée dominante qui a voulu faire de l'écrit la vérité absolue. On le retrouve d'ailleurs en littérature, on le retrouve partout. Et on retrouve cette résistance partout.
C'était justement le sens de ma prochaine question. Est-ce que les jazzmen africains-américains écoutaient la musique des Blancs, des colons ? Est-ce qu'ils écoutaient la musique classique européenne ?
Évidemment. Ils étaient même tous férus de cette musique-là. Comment pourrait-on oublier le crime contre l'humanité que ça représente ? Mais en même temps, quand vous êtes musicien et quand vous écoutez Bach, Mozart, Liszt, Chopin, Beethoven, vous ne pouvez être que touché. Comme d'ailleurs, dans le monde entier, nous sommes touchés par Duke Ellington, Coltrane, Charlie Parker, Thelonious Monk, James Brown ou Youssou N'Dour, pour faire large, et par toutes ces musiques qu'on appelle musique noire. Donc en fait, la beauté, elle est universelle. Les musiciens afro-américains ont été en plus... Il y a eu une volonté qui s'est cassée les dents sur la volonté de pouvoir dominant blanche aux États-Unis, qui était d'interdire aux Noirs de jouer de la musique classique. Mais ils le faisaient quand même. Quand même pas oublier les histoires qui sont très nombreuses des propriétaires d'esclaves qui repéraient les esclaves doués musicalement et qui leur faisaient jouer quoi ? Leur faisaient jouer dans le salon
des menuets,
enfin toute la grande musique classique de danse et tout ça. Alors le rapport à la danse était là, parce qu'aussi hein, on dit toujours « Ah bah le jazz ça swing, la musique classique ça swing pas », mais à l'époque il n'y avait pas de différence là-dessus. Quand vous jouez une mazurka, une polka, un menuet, ça swing, Bach ça swing, je reviens, hein, j'enfonce le clou. Donc en fait, il connaissait parfaitement cette musique-là. Jerry Roll Morton connaissait, il le dit d'ailleurs, je fais du jazz avec ce que je veux. D'ailleurs, c'est pour moi la meilleure définition du jazz, c'est de faire du jazz avec ce qu'on veut. À partir du moment où on fait ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut, c'est du jazz. Et Fats Waller était un grand interprète de Bach. à l'orgue, au vrai orgue d'église, avec le pédalier et tout ça. Nina Simone, les premiers solos qu'elle fait au piano, c'est des fugues.
Elle voulait être concertiste classique.
Évidemment. Et ceux qui s'en sortaient, c'était les chanteurs. Donc, Music is My Hope est un hommage à Paul Robeson, quelqu'un qui est aussi reconnu dans le monde lyrique que dans le monde du jazz. Maya Anderson, toute cette grande tradition de négro spirituel de concert. Et d'ailleurs, je m'inscris totalement en faux contre beaucoup de jazzman et de chanteurs de jazz, notamment afro-américains, qui maintenant disent « Oh, ben ça, c'était la musique pour les Blancs, c'était de la sous-musique. » Non, c'est pas vrai. Il faut toujours, arrêtons de poser des choses comme s'il y avait le gospel et le négro spirituel authentique du fin fond de l'Alabama et que les Fisk Jubilee Singer, Maya Anderson, étaient une sorte de musique noire blanchie. Si vous écoutez le discours que ces gens politiquement avaient, c'était eux qui menaient le combat pour tout le monde, et notamment musicalement. Mais tout le monde reconnaissait la grandeur de ces chanteurs-là. C'était beaucoup plus compliqué pour les instrumentistes. L'histoire de gens comme Will Marion Cook, Ville Vaudery, qui ont été des assistants de Dvorak, compositeur tchèque immense, qui a été directeur du conservatoire à New York, qui d'ailleurs, quand il est arrivé, dit « Votre musique classique, c'est ça ». Et quand il disait ça, c'était la musique populaire afro-américaine, le négro spirituel et les musiques amérindiennes. Il dit « Cherchez pas, vous l'avez trouvé ».
Il n'a pas composé la symphonie du Nouveau Monde pour rien.
Exactement, mais il l'a fait sous l'influence justement de ses assistants qui étaient afro-américains et qui, eux, par réponse, voulait faire la musique classique américaine, sauf qu'ils étaient noirs. Et c'est Duke Ellington, qui était leur élève, qui lui a compris. Il dit « Mais non, je vais faire du jazz, je vais jouer au Cotton Club, je vais faire ce qu'on me demande, mais je vais mettre le verre dans le fruit. » Et pour moi, c'est l'autre définition du jazz, c'est foutre le verre dans le fruit sans avoir l'air de le mettre. Voilà, c'est exactement ça.
Que Jean-Sébastien Bach swing, quand on écoute la Passion selon Saint Jean, on n'entend pas vraiment cet élan d'improvisation.
Mais je pense que vous êtes peut-être, excusez-moi, mais un peu victime des interprétations qu'on a pu avoir jusque-là. Je voudrais être une petite souris avec une machine à remonter le temps, y emmener tous les musicologues, doctes et sûrs de leur fait, et les emmener à l'époque de Bach, et à mon avis, je serais plus proche de ma sensibilité jazzistique improvisée et bordélique que de celle qu'ils imaginent être la grande musique de Bach telle qu'elle doit être jouée. Rappelez-vous les années 60 où c'est Karajan, qui par ailleurs est un immense chef d'orchestre, mais qui avait pignon sur rue. C'est comme ça qu'on jouait Bach, et quand vous écoutez ça maintenant, c'est inaudible. C'est pompeux, c'est énorme, c'est lent, c'est gros. Je n'y fais aucune allusion à la nationalité allemande de Karajan après-guerre et tout ce qui y arrivait. Parce qu'Arnoncourt, c'est aussi la révolution baroque qui allège totalement ça, qui dit déjà commençons par jouer sur les instruments d'époque et voir comment ils étaient construits et non pas sur les instruments modernes. Alors après, il y a eu d'autres réactions à la réaction, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de vouloir être totalement vrai historiquement, on en arrive à épuiser le filon aussi, donc il y a eu des retours, il y a eu des mélanges, des rencontres, puis finalement, quand nous on improvise sur Bach, mais je pense à des projets où on a mis des percussions sur l'ouverture de la Passion selon Saint-Jean, en rendant hommage à Alain Barena et à Schweitzer, qui est un grand organiste et médecin en Afrique, finalement Bach est partout, et on voit qu'il a cette capacité à groover, donc à danser. C'est de la musique de danse, il ne faut jamais l'oublier, même la musique d'église, c'est la musique qui doit être dansée.
Donc Bach et Coltrane se marient très bien sur scène.
Ils se marient à travers cette histoire-là. C'est-à-dire que, déjà, l'anecdote que je vous racontais, voilà, on découvre ce lien-là, et puis en développant le truc, il y a l'aspect mystique. Donc moi, je défends Coltrane comme étant un, si ce n'est le seul, véritable mystique de l'histoire du jazz dans ce rapport au spirituel, à la religion. Et s'il y a un musicien qui représente une expérience mystique par définition, c'est Bach. Ce qui ne va pas être le cas avec Mozart. Alors Mozart, moi je me suis amusé à l'associer avec Duke Ellington, ça me paraissait plus ludique de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est génial, Bach et Coltrane, mais on a quand même affaire à des totalités, des masses. Voilà. C'est l'invention du classicisme qui m'intéressait. C'est Mozart qui donne les clés du classicisme en musique occidentale, c'est Duke Ellington qui donne les clés du classicisme en jazz. Sans que ce soit ni pour pour l'un ni pour l'autre péjoratif. Et dans le cas de Bach, ça devient carrément intemporel. Moi, je rappelle tout ça dans tous les concerts.
Justement, j'allais vous demander, est-ce que le grand pédagogue que vous êtes explique aux spectateurs ce que vous jouez sur scène ?
Oui, alors, je m'amuse beaucoup avec ça. Je m'amuse beaucoup avec le fait qu'au départ, on ne fait aucune explication et qu'on leur balance notamment des grandes improvisations d'orgue. Moi qui hurle dans le saxophone et tout ça, ça dure les 10 premières minutes. Moi, quand j'ai commencé à faire du jazz, je ne dirais pas à quelle époque, enfin bon, j'ai 43 ans, j'ai commencé au début des années 90, il y avait toute cette pensée dans le free jazz européen et français qu'il fallait jouer le truc le plus difficile pour trier le public. Non, j'en suis pas là. Mais j'aime bien voir la tête dubitative de spectateurs qui, en plus, dans ce cas-là, viennent souvent de 3 ou 4 milieux différents. Il y a un public d'orgue. D'ailleurs, on le voit très bien. C'est vraiment un public spécifique. Il y a le public classique, il y a le public de jazz, et puis il y a un public de curieux. Il y a le public qui a vu de la lumière qui est rentrée. Enfin, il y a de tout. Et il y a un moment donné où ce moment un peu de folie au départ, sans explication, à froid, permet, si tout le monde est dubitatif, on est déjà une unité. Et là, je commence à expliquer. Je dis, ce que vous venez d'entendre, c'est un choral luthérien. Est-ce que vous êtes au courant, alors je ne dis pas comme ça, est-ce que vous êtes au courant que Martin Luther était un compositeur? Est-ce que vous êtes au courant, Bach est le plus grand compositeur protestant de l'histoire, d'ailleurs on le joue quasiment plus dans les églises catholiques que dans les temples protestants à l'heure actuelle, les catholiques en ont fait presque l'un des leurs, d'ailleurs à l'époque c'était assez ambigu, hein. Tous ces compositeurs écrivaient aussi pour des princes ou des évêques catholiques, c'était assez courant. Et est-ce que vous êtes au courant que Coltrane a des racines protestantes chrétiennes très fortes et qu'il en a fait une œuvre mystique? Et là, en quelques explications, vous voyagez, on fait un négro spirituel au milieu, un négro spirituel qui est In Heaven, le Mumbling World, qui est un des plus anciens, un des rares négro spirituels qui parle du Nouveau Testament et non pas de l'Ancien, déjà pour montrer aussi cette chose-là, et harmoniquement c'est de la musique baroque, et rythmiquement c'est de la musique africaine. Et je dis, voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est pas nouveau, ça fait juste 300 ans que ça existe.
Choisir de jouer dans une cathédrale est une manière de plonger l'auditeur dans votre intention artistique. Est-ce que vous auriez pu jouer, en gros, ce projet-là ailleurs ?
On le joue dans plein d'endroits différents, mais on ne va pas le jouer de la même manière. Ça nous est arrivé de jouer dans des salles de concert, normales, parfois même juste piano, percussion, saxophone. On va vraiment privilégier dans ces cas-là une dynamique de swing, une dynamique aussi pianistique et d'œuvres baroques. On l'a fait avec clavecin aussi. Pareil, dans ce cas-là, on va privilégier l'aspect danse de cette musique, l'aspect ludique, improvisation autour de shakon, de walking bass. Voilà, on réunit tout ça, on monte les liens qui existent. Et avec le même répertoire, si on joue dans une petite église avec un petit orgue, on va le faire différemment. Là, on est à Coutances, on est presque dans l'extrême inverse. Très grand orgue, assez haut, assez loin. C'est entre nous l'accès à l'orgue le plus compliqué de France, qu'en tout cas c'est un des plus compliqués que j'ai jamais vu. C'est génial, vous rentrez dans un immense escalier, l'organiste a l'impression qu'il est reçu comme le sauveur. Il monte un immense escalier en colimaçon pour y faire passer des batteries, des contrebasses, et tout d'un coup tout se referme, il faut quasiment s'agenouiller. J'aurais du mal à y passer mon saxophone. Donc en fait on était coincés, ça nous arrive de jouer à la tribune avec l'orgue, mais là on a dû jouer en bas. Déjà aussi pour les spectateurs, parce que c'est toujours un peu, bon, on l'a fait, hein, là aussi on s'adapte. Mais le public de jazz n'est pas habitué à lever la tête comme ça, ou à même parfois à voir le concert derrière soi. Le public d'orgue, lui, il est habitué à ça. Il aime bien se recueillir et voir l'orgue derrière. Mais c'est des habitudes très particulières. Et donc on arrive à associer ce genre de public, et là on doit s'adapter. On s'est mis au milieu de la cathédrale, pour être pas trop loin de l'orgue, On ne voit pas André, il est caché derrière la masse de l'orgue, il ne nous entend pas très bien. Donc là, on doit changer radicalement. Mais ça nous est même arrivé de jouer dans des clubs de jazz, des tout petits clubs, piano, batterie, parfois avec des contrebasses, on est quasiment dans un quartet de jazz, ou sinon de le faire avec quatuor à cordes dans des grandes églises.
Doit-on y voir une forme de prosélytisme quand on s'exprime dans une église ?
Non. Alors prosélytisme pour le jazz, oui. Prosélytisme pour la musique improvisée, pour le métissage et la créolisation, oui. Pour que des gens, il y a des gens très catholiques, très pratiquants qui viennent à ce genre de concert et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et essayer de leur faire comprendre qu'ils ont leur place tous ensemble dans ce genre de concert, c'est très important pour moi. Moi, je viens d'une famille très partagée. J'aime bien vivre avec cette ambivalence. Le jazz, c'est une musique d'ambivalence. Vous le savez très bien, si vous recevez un artiste qui vous dit le jazz c'est ça et pas ça, je pense que vous avez envie de l'envoyer sur une autre radio que la vôtre. Donc c'est une musique d'ambivalence. Et ça, il y a du prosélytisme. Il n'y a pas de prosélytisme religieux. Sûrement pas. Moi, je suis agnostique, totalement. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas athée non plus, parce qu'après tout, faut se laisser des chances pour la fin. Et non, mais en plus, quand vous étudiez ces musiciens qui étaient profondément croyants, quand vous voyez que la musique a ce pouvoir-là, vous vous posez forcément des questions. Mais moi, ce n'est pas au point. C'est pas comme Olivier Messiaen, Paul Claudel ou John Coltrane qui ont vécu cette révélation mystique.
En s'étant troublé, est-ce que votre proposition musicale n'est pas animée par un désir d'insuffler la sérénité, la paix en chacun de nous?
Alors, j'espère que les gens sortent de là avec plus de questions que de réponses. Je pense que la solution à l'heure actuelle, là c'est le chercheur et le militant qui parlent d'abord, je pense que la solution à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que les gens se posent plus de questions, qu'ils sortent de leur atavisme. On est bien placé quand on parle de musique noire, pour voir que les problèmes d'identité sont de plus en plus récurrents. Beaucoup de gens pourrait, vous et moi, nous contester la légitimité d'en parler ou de la jouer. Et ça m'arrive de plus en plus. Parce que je suis blanc, parce que vous l'êtes, et que je comprends en plus d'où ça vient et pourquoi ils le font, et que je trouve ça finalement pas si illégitime que ça. Mais je dois trouver une réponse pour ça. Et pour trouver une réponse, c'est leur faire poser des questions. C'est sûrement pas leur affirmer quelque chose. Et quand on se retrouve avec un organiste classique, un batteur, Jean-Luc Difraya, c'est un batteur qui a toutes les origines marseillaises. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le créole absolu. Et moi, qui essaye de comprendre cette musique, de la restituer, de la transmettre, oui, je souffre un peu que beaucoup de ces concerts concernent une certaine tranche d'âge, une certaine tranche de la population, mais finalement de moins en moins. Et là, j'y vois aussi le résultat du travail que l'on fait tous, nous, pour essayer de faire en sorte que ce public se renouvelle. On est quand même dans un festival, moi je suis frappé, c'est la première fois que ça me fait ça à ce point-là. Vous marchez dans les rues, il y a des jeunes, des vieux, des amateurs de jazz, des amateurs de techno et tout. Et ça s'appelle Jazz sous les pommiers, sans que ce soit un faux festival de jazz, parce qu'on ne va pas dire de nom, mais il y en a beaucoup. Des festivals de jazz qui disent mettre jazz pour faire bien et qui n'en programment pas. Ici, tout est programmé et tout le monde peut faire un choix. Les gens qui viennent à la cathédrale jouer, et moi, je ne vais pas leur proposer une solution, je vais leur proposer des questions. Et c'est quoi le jazz? C'est quoi la musique classique? C'est quoi l'improvisation là-dedans? C'est quoi l'identité de Bach et de Coltrane? Et comment ça résonne avec ma propre identité? On est au fin fond de la Normandie, et les gens qui sont là sont des gens du cru, mais des gens qui viennent aussi de très loin, et ils ont tous ce même questionnement. Pour moi, l'avenir et les solutions, elles sont là. Elles sont sûrement pas dans les solutions toutes faites.
Quel regard portent vos homologues jazzmen et solistes classiques sur votre tentative de rapprocher deux mondes bien différents?
Ah! Dans un premier temps, à tout point de vue, que ce soit les programmateurs, les critiques et les musiciens, c'est d'abord le monde classique qui s'est emparé du projet. Il y a eu une réaction immédiate. Et pendant, et je vais dire quelque chose, c'est la première fois que je le dis officiellement, je l'ai dit beaucoup dans mon cercle restreint, parce que nous, ça nous a posé problème. Avant de faire le bac Coltrane, même en disque, un disque qui a énormément marché, on en est à 14 000 exemplaires vendus. Et la première année, on en a vendu 6 000, dans une époque où on ne vend plus de disques. Donc il y a eu un vrai succès, un succès qui est un succès public, de bouche à oreille en plus. Avant, je jouais dans plein de festivals de jazz. Du jour au lendemain, pendant 6 ans, je n'ai pas fait un seul festival de jazz. Et même, j'ai eu des réflexions de critiques de certains de vos collègues. Alors, il y en a certains qui m'ont même accusé, c'était écrit noir sur blanc, en gros, de débluesifier, désafricaniser Coltrane en faisant ça. Je trouvais ça génial comme réflexion. Les classiques, eux, ils ne se posaient pas la question de savoir si j'avais africanisé Bach. C'est intéressant quand même, hein. Et pendant 6 ans, vraiment, Réponse zéro de la part du milieu du jazz. Et par contre, j'avais eu un choc dans Diapason, la meilleure critique dans Classica. Jamais de ma vie, Joe, j'aurais pensé avoir des très bonnes critiques dans Classica et Diapason. France Musique en permanence. C'est les radios d'ailleurs en jazz. Ça, pour les radios, le monde du jazz comme le monde du classique a bien réagi, ce qui est plutôt un bon signe quand vous êtes musicien. Ça veut dire que ça passe bien à la radio, qu'il y a une vraie intention sur ce que vous écoutez. Mais intellectuellement, il y avait un problème. Et les choses se sont un peu inversées maintenant. Alors, je continue à faire beaucoup de projets avec des musiciens classiques, vous le savez, avec Carole Beffa, avec l'ensemble Contraste, beaucoup avec Joanne Fargeau, qui sait tout jouer, avec qui je fais les Mille et Une Nuits du Jazz au Bal Blomé. Donc, c'est un excellent. Il est capable d'accompagner un jour Karine Dehé sur du Forêt et le lendemain de faire du funk.
Voilà, et c'est très pédagogique en même temps.
Ah ben, c'est extrêmement. En fait, il faut toujours être pédagogique. La solution pour ces projets-là, pour cette transversalité-là, je m'inscris totalement en faux vis-à-vis beaucoup de projets qui sont tout construits, tout faits pour essayer d'associer des trucs qui ne sont pas associables. On peut associer tout avec ce qu'on veut, à partir du moment où c'est un objet pédagogique, quelque chose qui va permettre de faire connaître, de transmettre et d'échanger. Là, tout va bien. Et puis, si on le fait avec cette intention, le maître mot, c'est le swing. Et swing, c'est pas forcément un ching-ding, c'est pas un shabada. Le swing, c'est une intention, c'est se balancer, et notamment se balancer entre deux mondes. Là, en l'occurrence, c'est le monde du classique et le monde du jazz.
Vous faites en tout cas preuve d'une grande ouverture d'esprit que nous ne pouvons que saluer, Raphaël Imbert. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui à Coutances.
Merci beaucoup, Joe.
En espérant que cette proposition musicale vous a passionné, vous écoutiez Raphaël Imbert à la cathédrale de Coutances en compagnie de Jean-Luc Difraya au chant et aux percussions et André Rossi aux grandes orgues de cette imposante bâtisse du XVIIIe siècle. C'était le 12 mai 2018 devant les micros de Marc Fichet que je remercie au passage pour cette prise de son périlleuse mais lumineuse. La semaine prochaine, nous accueillerons un éminent représentant de la contre-culture américaine au cœur des années 70. Il mit notamment en musique quelques œuvres majeures du poète, chanteur et activiste Gil Scott Heron. Il s'appelle Brian Jackson. Il est flûtiste, compositeur et producteur. Il sera très prochainement à l'affiche du 3e Paris-New York Heritage Festival qui se tiendra du 5 juin au 22 juillet des deux côtés de l'Atlantique avec notamment Tony Allen, l'ancien batteur de Fela Anikulapokuti, le 8 juin au Café de la Danse à Paris et donc Brian Jackson la veille, le 7 juin, toujours au Café de la Danse. Toutes les infos sur le site parisnewyorkheritagefestival.com ou si vous préférez pnyhfestival.com. L'émission du jour était réalisée par la pieuse Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.